Merci. Je vais m'exprimer en français. Je signale juste que je suis professeur à l'Université de Genève et titulaire d'une chaire UNESCO. Je vais parler des noms de lieux, de groupes minoritaires et de politiques toponymiques inclusives dans l'espace public. On peut d'abord dire que la visibilité des noms de lieux minoritaires a connu des progrès incontestables ces dernières décennies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nom de lieu minoritaire, entre guillemets? Il y a d'une part les noms de lieux autochtones, notamment en situation postcoloniale. Il y a également les noms de lieux que l'on pourrait qualifier de originels en langue régionale. Il y a également les noms de lieux qui sont des noms de lieux de production populaire, notamment dans les quartiers informels. Et enfin, on peut ajouter les noms qui constituent des revendications de présence et de mémoire, notamment dans les noms de rue. Et là, bien sûr, on touche la question du genre et la question décoloniale, entre autres. Alors, pour ce qui est des avancées, la question toponymique est apparue dès 1992 dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. D'autre part, la question toponymique est présente dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones. On a noté ces dernières décennies des pratiques d'affichage signalétique en langue régionale multiple ou alternative. On note aussi régulièrement des opérations de restitution de noms autochtones. Enfin, il y a des progrès dans la décolonisation et la féminisation des noms de rue. Un cas exemplaire qui peut être présenté et qui combine plusieurs de ces approches est celui de l'Afrique du Sud post-apartheid. Next slide, please. L'Afrique du Sud post-apartheid a opéré toute une série d'actions ou d'initiatives qui vont de la renomination de certaines villes, notamment la ville capitale, sans pour autant effacer totalement le nom colonial préalable. Également des opérations de renomination de rues dans les townships, les quartiers périphériques, et des opérations qui sont de plus participatives. Et enfin, on a le recours assez systématique à de la signalétique qui est multilingue. Mais, next slide, mais il y a aussi des régressions, des risques et des lenteurs. Alors, au chapitre des régressions, on a constaté d'importantes opérations de nettoyage toponymique, avec des opérations de conquête territoriale qui s'accompagnent de ce type de mesures, mais aussi, plus généralement, si vous voulez, des politiques qui peuvent nier des présences ou des cultures par effacement toponymique. Également, on a noté des retours en arrière sur des autonomies et des initiatives régionales, avec un retour à une certaine hégémonie de la langue nationale. Également, il y a des opérations d'adressage de rue qui sont des opérations tout à fait top-down, qui ignorent totalement les pratiques vernaculaires. Alors, quels sont les risques? Eh bien, les risques, c'est un risque d'homogénéisation et d'hégémonie, notamment par traduction. Il ne suffit pas de faire figurer des noms en langue régionale, par exemple. Encore faut-il que ce soit bien les noms en langue régionale qui soient, et non pas des traductions depuis la langue nationale. C'est un exemple. Également, la standardisation et la stabilisation qui est promue par les commissions toponymiques peut être un problème quand elles favorisent l'homogénéisation et le maintien d'une hégémonie toponymique. Alors, le problème de fond, en fait, c'est le focus sur une approche juridictionnelle de la toponymie avec un territoire égale une souveraineté égale une langue et une langue exclusive. Et puis l'autre problème, c'est donc celui des commissions toponymiques qui peuvent éventuellement privilégier la standardisation et la souveraineté sur les objectifs d'inclusivité. Autrement dit, sacrifier, si vous voulez, certains droits culturels aux contraintes techniques et juridictionnelles. Next slide. Alors, il y a une opportunité importante qu'il faut certainement saisir, qui est celle du tournant numérique. Le tournant cartographique numérique redistribue potentiellement les cartes toponymiques. Vous connaissez tous les plateformes privées, notamment Google Maps, mais ce n'est pas la seule, et des plateformes collaboratives telles que OpenStreetMap ou Wikimapia, qui constituent aujourd'hui les bases des navigateurs qui sont utilisés par à peu près tout le monde et qui constituent aussi les bases de l'infographie qui est également diffusée un peu partout. Donc là, il y a une opportunité peut-être de promotion et de visibilisation de toponymie alternative sur ces plateformes. D'autre part, il y a la standardisation des adresses de rue qui est promue par plusieurs organisations internationales et qui est appelée par l'impératif de géolocalisation. Donc là, il y a des opportunités lors de ces opérations d'adressage, des opportunités qu'il faudrait pouvoir saisir d'inventaire toponymique vernaculaire, populaire si vous voulez, et d'inventaire toponymique de type mémoriel. Et je terminerai par des recommandations. Je pense que la recommandation principale qui peut être faite dans ce champ, c'est celui de se lancer dans l'élaboration d'une charte des droits toponymiques inclusifs, ou à minima, de développer les volets existants dans plusieurs chartes et déclarations que j'ai déjà évoquées. Alors, quels pourraient être les développements ? Les développements pourraient être, d'une part, le besoin aujourd'hui d'impliquer les acteurs de la cartographie numérique et également ceux de la standardisation des noms géographiques dans la réflexion sur une stratégie inclusive de toponymie, puisqu'il s'agit là des nouvelles opportunités que j'ai évoquées. D'autre part, il faudrait certainement promouvoir des diagnostics participatifs de toponymie vernaculaire lorsqu'il y a des opérations d'adressage ou des opérations de cartographie. Ces opérations d'adressage sont donc poussées par les organisations internationales. Elles interviennent un peu partout dans le monde aujourd'hui et ce sont de fantastiques opportunités pour aussi collecter l'information et réaliser des inventaires qui seront des ressources pour les politiques de dénomination. Et donc, les deux derniers points vont avec. Il s'agit de l'élaboration de bases de données ou d'inventaires de toponymies vernaculaires et minoritaires, en complément des bases de données officielles. Et enfin, l'affirmation d'un principe de non-hégémonie toponymique exclusive, avec les possibilités d'affichage alternatif par les gouvernements locaux, d'une part, et sur les plateformes numériques, d'autre part. Merci.